13h, Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, l'heure est au constat des dégâts en région et à Paris. Au lendemain de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, beaucoup de casses, notamment à Bordeaux. Alain Juppé dénonce les vandales et les pilleurs et dit à Emmanuel Macron qu'il doit parler très vite. À Paris, le ministre de l'économie est en ce moment même sur le terrain pour discuter avec les commerçants victimes des casseurs, Bruno Le Maire, qui parle de catastrophe pour l'économie. C'est demain qu'Emmanuel Macron devrait sortir de son silence. Ségolène Royal sur Europe 1 lui demande de rétablir l'ISF en signe d'apaisement. Nous verrons avec mon invité, le politologue Jérôme Sainte-Marie, comment le président peut dénouer la crise. Nous serons aussi en l'église de la Madeleine à Paris pour la première messe anniversaire de la mort de Johnny et la ferveur des fans toujours intacte. Enfin, la météo avec la Haute-Corse toujours en vigilance rouge.
Europe 1.
Au lendemain de cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, l'heure est donc à la constatation des dégâts, car si les débordements ont été nettement moins violents à Paris, beaucoup de villes en région n'ont pas été épargnées par la casse. C'est le cas par exemple à Bordeaux, Stéphane Place.
Oui, mobilisés très tôt, les agents municipaux continuent ce matin dans ce quartier du centre-ville à déblayer, à nettoyer un peu plus de 100 mètres cubes de vitres brisées, de mobilier urbain, de panneaux de signalisation dégradés ont été ramassés. Jean-Michel, commerçant, a assisté à ce déchaînement de violence.
C'est clair et net, c'est la racaille qui vient tout péter, c'est un jeu. Et puis au milieu de ça, il y a des activistes très bien entraînés avec des produits incendiaires dans le sac, qui sont là pour ça. Toutes les barrières, tous les vélos, tout ce qui pouvait être bougé a été bougé, toutes les palettes donc, du chantier qui avaient laissé ont été brûlés, incendiés. Il y avait des flammes de 10 mètres de haut. C'est absolument navrant.
Habitant le quartier, Monique découvre également ce matin les dégâts.
Brûlés, tous les mobiliers urbains, etc. Ils ont brûlé aussi des engins qui font les travaux. Il y a une distorsion entre le fait de vouloir davantage de services publics et puis de détruire tout ce qui représente les travaux qui font des améliorations.
Pour l'heure, les autorités locales ne disposent pas encore d'un bilan chiffré de ces dégâts. À plusieurs endroits, je l'ai constaté, la chose a fondu, conséquence de la chaleur intense engendrée par l'embrasement de ces barricades. Et ce matin, une quarantaine de personnes se trouvent toujours en garde à vue à l'hôtel de police de Bordeaux.
Et Alain Juppé, très en colère, est venu lui-même constater les dégâts avec un message très clair pour Emmanuel Macron.
Cela doit cesser. D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, qu'il tienne un discours fort. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie. Beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération et qu'ils s'expriment dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Il faut qu'ensuite il annonce des mesures fortes. La question du pouvoir d'achat des plus modestes d'entre nous doit être évidemment abordée. Celle des salariés qui ont de faibles revenus, celle aussi des retraités qui ont des petites retraites. Et ajouter à l'augmentation de la CSG le gel quasiment intégral des pensions de retraite, c'est sans doute trop charger la barque. Et puis il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique.
Alain Juppé avec Stéphane Place ce matin à Bordeaux, à Paris. Le premier adjoint à la ville, Emmanuel Grégoire, redoute une facture plus importante que celle de samedi dernier, car ce sont des petits groupes de casseurs qui ont opéré dans plusieurs quartiers de la capitale, même si les violences ont été moins importantes. Parmi les quartiers touchés, celui de la gare Saint-Lazare et de la place Saint-Augustin, secteur dans lequel le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est en train de rencontrer les commerçants, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, Bruno Le Maire rencontre en ce moment même les commerçants victimes des casseurs. C'est une catastrophe pour l'économie. Il faut que les violences laissent place au dialogue. C'est le message du ministre. Difficile à entendre pour des artisans qui ont beaucoup perdu. Juste en face de la gare Saint-Lazare où je me trouve, le Starbucks est complètement vandalisé. Les vitrines sont brisées et à l'intérieur, on peut voir les présentoirs totalement pillés. Juste à côté, Franck tient une boutique de chaussures. Sa vitre a explosé. Il avait pourtant protégé son magasin hier.
On avait vidé la boutique avant. Vendredi, on avait amputé de notre chiffre d'affaires parce qu'on avait fermé plus tôt. Samedi, on n'a pas ouvert. Lundi, ça va être un bordel. On ne va pas pouvoir faire nos vitrines. On va être bloqué encore quelques jours.
Devant les dégradations impressionnantes, les passants, les riverains, les touristes prennent des photos. Nathalie est venue du Pas-de-Calais avec sa fille faire ses achats de Noël.
C'est impressionnant quand même. C'est une boule au ventre. On voit les images à la télé, mais quand on est confronté à ça, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant.
Mathias était présent hier soir quand les casseurs se sont introduits dans le café. Il est revenu ce matin avec Archibald, son fils de 6 ans.
Les non-casseurs ne pouvaient rien faire. C'est triste que ces gens viennent se mêler dedans.
Ils n'ont rien à faire là-dedans.
Je veux juste montrer à mon fils des choses qu'on ne doit pas faire.
C'est horrible, comme c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fouillé sur le restaurant.
Les casseurs ont fouillé, détruit le restaurant, dit-il. La mairie de Paris indique que les dégâts sont plus importants cette fois-ci. Un coup très dur à 2 semaines des fêtes de fin d'année.
Jean-Gabriel Bourgeois. Alors on l'a dit, si les débordements étaient nettement moins violents que le 1er décembre, on vient de l'entendre, il y a encore eu beaucoup de cas. Et surtout, ce qui est marquant, Pierre de Cossette, c'est le nombre d'interpellations. Plus de 1700 sur l'ensemble du territoire, suivi de 1220 gardes à vue, un record. Pierre, est-ce que l'on sait quoi de ces personnes interpellées? Et surtout, sont-elles toujours en garde à vue ce matin?
Alors, ce qu'on peut dire d'abord sur le plan des chiffres, Fabienne, c'est qu'une partie non négligeable des suspects placés en garde à vue ont été relâchés à Paris. 284 précisément ont été remis en liberté. Le parquet a classé sans suite près du tiers des procédures sur les 970 gardes à vue prises hier. À ce stade, je peux aussi vous dire que, toujours à Paris, 108 personnes mises en cause connaîtront une sanction judiciaire. Elles ont été déférées, sans doute essentiellement des comparutions immédiates, peut-être aussi du plaidé coupable ou du rappel à la loi pour les faits les moins graves. 600 gardes à vue se poursuivent donc en ce moment. Le procureur devrait nous en dire plus en fin de journée. Ce sera intéressant de connaître la suite de toutes ces gardes à vue dont beaucoup ont été prises hier avant même les incidents, c'est ce qui a pu être qualifié d'interpellation préventive, même si rendue possible par le code pénal pour attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Pour ce qui est du profil des personnes gardées à vue, ce sont sans surprise en immense majorité des hommes, moins de 5% de femmes et moins de 10% de mineurs. Des hommes donc principalement, petite trentaine d'années, souvent connus pour des délits routiers, mais aussi pour des dégradations, ce qu'on appelle les casseurs. Beaucoup venus de province, des gilets jaunes, mais aussi de banlieue, cela dans l'idée de piller les magasins en profitant du désordre. Peu de militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite, en revanche déjà connus des services de renseignement.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. À suivre, on l'entendait au début de ce journal, Alain Juppé dit qu'Emmanuel Macron doit parler très vite. Nous verrons dans un instant que cela pourrait être demain et comment il va sortir de son silence.
Il est précisément 12h39, la suite du journal Fabienne Lemoyle.
Au lendemain du quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, on attend désormais qu'Emmanuel Macron sorte de son silence. Il faut qu'il parle vite, dit Alain Juppé. Quant à Ségolène Royal, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, elle est claire. Il faut pour elle que le chef de l'État annonce le rétablissement de l'ISF.
Il y a à la fois une inquiétude pour les fins de mois, pour ceux qui ont des revenus modestes, les bas salaires et les petites retraites, et en même temps, il y a une inquiétude pour le futur. Donc, il faut répondre à ces deux préoccupations. Donc, il faut à la fois des mesures d'urgence,
immédiates, sur les bas salaires, par
immédiates,
exemple.
Des mesures symboliques comme le rétablissement de l'ISF, ça me paraît maintenant incontournable. Vu la situation, c'est un élément d'apaisement très fort.
Voilà ce que vous disait Ségolène Royal ce matin au grand rendez-vous, Hélène Jouan. Emmanuel Macron pourrait parler dès demain, mais la question, Hélène, c'est qu'est-ce qu'il peut dire de plus pour dénouer la crise? Est-ce qu'il peut aller jusqu'à rétablir l'ISF comme lui demande Ségolène Royal?
Alors, rétablir l'ISF, sachant qu'Emmanuel Macron a lui-même évacué cette hypothèse lors du dernier Conseil des ministres, a priori, ce n'est pas le plus probable. D'autant que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'a répété ce matin sur Europe 1. L'ISF n'est pas l'alpha et l'oméga des problèmes de fin de mois difficiles.
Vous savez, les gens qui sont hier dans la rue, leur question, c'est comment est-ce qu'on arrive à boucler les fins de mois. Et je ne suis pas certain que les 3 milliards de l'ISF, qui n'a pas été supprimé mais qui a été réformé, suffisent à répondre à cette question. Si on se limite à ça, croyez-moi, on prend mal la mesure du problème et des souffrances que ces gens expriment avec sincérité.
Alors, pour prendre la mesure de ces souffrances, le président a, semble-t-il, l'intention de répondre avec des engagements d'abord à long terme, mais pour éteindre le feu, il s'apprêterait surtout à annoncer des mesures urgentes, ciblées, presque du sur-mesure, paraît-il, pourquoi pas, adaptées selon les territoires. Alors, parmi ces mesures urgentes, Emmanuel Macron pourrait s'engager à accélérer la suppression de la taxe d'habitation. Il pourrait s'engager à accélérer aussi la défiscalisation des heures supplémentaires, le dispositif Nicolas Sarkozy supprimé par François Hollande. Autre piste possible, donner un coup de pouce aux primes d'activité pour jouer sur les bas salaires. Pour les retraités, peut-être aussi coup de pouce au minimum vieillesse, à moins qu'ils ne décident de revenir sur la désindexation des retraites sur l'inflation. Enfin, le président pourrait également s'engager sur une baisse de l'impôt sur le revenu. Bref, un contre-choc fiscal et social pour répondre au ras-le-bol fiscal. Avec la question qui en découle, ces nouvelles dépenses seront-elles financées par un déficit accru qui nous ferait sortir des clous européens? un totem hier encore pour Emmanuel Macron, mais la crise des Gilets jaunes aura peut-être raison aussi de ce totem.
Hélène Jouan, réponse dans quelques heures.
Europe 1, 12h42, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
On se souvient, il y a un an, des milliers de fans qui avaient assisté aux obsèques de Johnny Hallyday et leur ferveur reste intacte ce matin en l'église de la Madeleine à Paris pour la première messe anniversaire de la mort de leur idole, Marguerite Lefebvre.
Oui, ferveur des 1100 fans qui ont réussi à rentrer dans cette église de la Madeleine. Et puis, la même ferveur chez tous les autres qui, eux, sont restés dehors sur le parvis malgré la pluie. Ils ont pu suivre sur leur téléphone cette messe d'hommage aux airs de Johnny Hallyday. Requiem pour un fou, Marie, les cantiques réadaptés sur les chansons de Johnny. Pierrette et Benoît étaient déjà là l'an dernier pour les obsèques du chanteur. Impossible pour eux de ne pas revenir aujourd'hui.
J'étais devant là-bas, je l'ai vu passer, j'en ai des frissons encore. Mais je ne sais pas, c'est peut-être idiot à dire, mais pour moi, il n'est pas parti parce qu'il a fait partie de ma vie depuis l'âge de mes 16 ans, depuis Retiens la nuit. On ne peut pas l'oublier. D'ailleurs, ça ne finira jamais entre nous. On communie avec lui encore.
Il manque. Comme ça, c'est de le voir physiquement, en fait, qu'il nous manque. J'espère qu'il y a encore dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore des hommages. Il faut le faire vivre.
Alors cette messe qui a duré un peu plus d'une heure est maintenant terminée. Elle s'est achevée par un « que je t'aime » repris par toute l'assemblée. Et désormais, les fans sont seuls dans l'église. Ce sont eux, désormais, qui rendent leur hommage à Johnny.
Marguerite Lefebvre en direct de l'église de la Madeleine à Paris.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On commence avec du handball et le championnat d'Europe féminin. La France reçoit la Suède, c'est à Nantes.
Oui, avec les champions du monde qui ne sont plus qu'à 2 victoires des demi-finales de l'Euro. Les Françaises retrouvent les Suédoises qu'elles avaient battues l'an dernier lors du Mondial. Et une équipe de Suède apparemment moins fringante que l'an passé, mais gare à tout excès d'optimisme, rappelle le sélectionneur Olivier Crumbles.
Il y a des bonnes joueuses et... vous savez, elles sont affaiblies, elles ont surtout mal joué le dernier match contre le Monténégro. Et elles vont tout faire pour se reprendre, elles n'ont plus rien à perdre. C'est la dernière chance et en ayant à jouer les Françaises et les Russes, elles savent que le chemin est très étroit. Mais ça peut aussi leur apporter une certaine forme de décontraction qui les rend redoutables. Donc on est très vigilants.
Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, interrogé par Christophe Lamar. 8500 personnes sont attendues cet après-midi à Nantes pour assister à la rencontre.
Football, 17e journée de Ligue 1, ça va mieux pour Rennes. En revanche, c'est toujours aussi alarmant pour Guingamp.
Rennes qui vient d'enchaîner en effet un deuxième succès consécutif. Victoire hier soir face à Dijon 2-0 grâce à un Tem Ben Arfa de gala. En revanche, Guingamp et son entraîneur Jocelyn Gourvennec ne s'en sort pas. Nouveau revers cette fois contre Amiens. 2-1. Aujourd'hui à 15h, Strasbourg affronte Caen. À 17h, Lille reçoit le Stade de Reims. Et puis sachez que le Parisien Neymar reprend l'entraînement aujourd'hui. Il devrait être opérationnel mardi pour le déplacement à Belgrade en Ligue des Champions. Le foot en Angleterre avec la première défaite en championnat de Manchester City, battu par Chelsea 2-0. L'un des buts a été marqué par N'Golo Kanté, c'est Liverpool qui prend la tête du classement. Et puis ce soir, donc affiche inédite à Madrid avec la finale retour de la Copa Libertadores entre les deux plus grands clubs argentins, River Plate et Boca Juniors. Ça sera à Madrid à partir de 20h30. On suivra cela avec Henri Delaguerie.
On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France en juin prochain. C'est encore du football et depuis hier soir, on connaît les adversaires de l'équipe de France.
Les Françaises disputeront le match d'ouverture le 7 juin prochain au Parc des Princes face aux Sud-Coréennes qu'elles ont battu l'an dernier lors du Mondial 3-0. Les deux autres adversaires, la Norvège, championne du monde en 95 et le Nigeria, champion d'Afrique. Un groupe équilibré mais relevé, explique la sélectionneuse Corinne Diacre.
Ce sont trois nations qui jouent très bien au football, alors trois cultures footballistiques aussi complètement différentes. Maintenant, vous savez, si elles sont là, c'est pas par hasard, donc il faudra qu'on se montre bien meilleur qu'elles. Si on veut aller loin dans la compétition, on n'a pas le choix de toute façon.
Le biathlon avec Quentin Fillon-Maillet qui finit deuxième de la poursuite qui se disputait ce matin en Slovénie. Martin Fourcade a abandonné.
Merci Cyril de la Morinerie. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche. Chez Valérie Darmon, la Corse toujours sous vigilance rouge.
Et oui, la deuxième de ce type depuis le début de l'année. Alors, rafales tempétueuses jusqu'à 180 à 200 km/h sur les caps et les côtes exposées. On a déjà relevé 162 km/h à l'île Rousse. Les vents violents arrivent par le nord et toucheront le sud en soirée en passant par l'est de l'île de Beauté. Vents violents aussi sous forme de tramontane ou de mistral le long du pourtour méditerranéen avec des rafales à 120 et tempêtes de neige dans les Alpes du Nord avec un mètre de neige fraîche dès 1700 mètres d'altitude. Des vents à 120 en haut des domaines skiables. Donc attention,
évidemment au risque d'avalanche.
Ça souffle beaucoup moins fort sur le reste du pays.
Oui, aux alentours de 70 km/h, mais ça souffle quand même, hein, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux assez sérieux quand même.
On peut et pas ça dire se calme demain.
Et ça se calme demain absolument partout, avec le retour des éclaircies sur toute la façade ouest et sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, quelle réponse politique à la colère des Gilets jaunes? On le disait, on attend une réponse d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il parle vite, dit Alain Juppé. Mais pour dire quoi? On en parle avec le politologue Jérôme Sainte-Marie qui a suivi hier les manifestations.
12h50, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et votre invité.
Quelle réponse politique après la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes qui s'est traduite à Paris par des débordements nettement moins violents que le 1er décembre, mais encore, on l'a entendu dans le journal, beaucoup de dégâts et de cas. Ça a été le cas aussi en région, à Bordeaux, Marseille, Toulouse ou Saint-Étienne. C'est demain soir qu'Emmanuel Macron pourrait prendre la parole. Mais pour dire quoi? Quelle réponse peut-il apporter à la colère et aux revendications révélées par la crise des Gilets jaunes? Avec moi en studio, Jérôme Sainte-Marie, politologue et spécialiste de l'opinion, président de Polling Vox. D'abord, Jérôme Sainte-Marie, bonjour.
Bonjour.
Revenons sur la journée d'hier. Vous étiez sur le terrain,
tout à fait,
comme les semaines précédentes, et vous avez interrogé, je crois, près d'une quarantaine de Gilets jaunes. Qu'est-ce qui vous a marqué?
Ce qui m'a marqué, c'est la très grande homogénéité sociale de ces personnes que j'ai interrogées, surtout jusqu'à 13h, puisqu'après les gens sont devenus plus agités, c'était plus difficile. Mais ce sont des ouvriers, ce sont tout simplement des ouvriers qui sont au chômage, qui sont en activité, parfois indépendants, qui viennent, ils étaient venus de très loin, à leurs frais, souvent par des cartes.
Donc des gens qui venaient de région.
De région, de Normandie, de Champagne, de Lorraine, du Nord, de ces régions industrielles très appauvries. Et c'était très souvent aussi des gens qui venaient hier pour la première fois.
Et qui ont pris le risque de venir alors qu'on les avait dissuadés justement de venir à Paris.
Oui, je crois que le discours qui ressemblait quand même, disons, de prévention, voire pour certains l'interprète même comme une forme d'intimidation, eh bien, ce discours-là a eu un effet paradoxal. Ça a dissuadé beaucoup de gens de venir. Il n'y avait aucun étudiant ou lycéen, par exemple. Mais ça a favorisé l'arrivée de nouvelles personnes en disant « non, là, c'est trop ». On veut réellement nous interdire en quelque sorte de manifester à Paris et nous y serons par une forme de fierté ouvrière, de fierté populaire qui s'est réveillée à ce moment-là. Donc ce qui fait qu'on est arrivé à une participation de cette manifestation de ce rassemblement plutôt, qui était à mon avis, mais enfin je n'étais pas partout, je n'étais pas compté un par un, qui était au moins égale à la fois précédente et à mon avis supérieure d'un coefficient 2. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne remette pas, qu'on prenne pour argent comptant les comptages.
En tout cas, le ministère de l'Intérieur parlait effectivement de 10 000 manifestants, ce qui est déjà un
nombre conséquent. Permettez-moi de préciser les choses là-dessus, parce que moi j'aime bien les chiffres, justement. C'est que c'est très étrange qu'on prenne pour argent comptant les chiffres du ministère de l'Intérieur. On n'a jamais fait ça auparavant.
On précise bien en tout cas que ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ces gens vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils revendiquent alors que justement on attend qu'Emmanuel Macron sorte du silence?
Plusieurs choses apparaissaient. Tout d'abord, le fait que c'est une revendication, ou plutôt un malaise social. Les gens me parlaient spontanément de leurs difficultés très précises et des difficultés financières. Donc, si vous voulez, la réponse qu'ils attendent, s'ils en attendent une encore du pouvoir en place, c'est bien sûr une question financière. Ça ne va pas être des variations sur les territoires oubliés, sur ceci ou cela, ou sur le devoir d'écoute. Ils ne veulent pas, les gens qui étaient présents ne veulent pas spécialement être écoutés.
Ça veut dire une augmentation des minima sociaux? Ça veut dire une augmentation du SMIC, comme ce que certains réclament?
Ils veulent de l'argent
réclament.
Directement ou indirectement. C'est-à-dire, effectivement, pouvoir s'en sortir, soit par plus de services publics, soit par une meilleure, rétribution, soit par moins de... Alors, ça part dans tous les sens. Ça peut être aussi, effectivement, moins de taxes, etc. Ce n'est pas un programme qu'ils expriment. Il y avait parfois des référence à également le pacte de Marrakech, la question des migrations apparaissait parfois.
Qui est un pacte, on va dire, qui n'est non contraignant effectivement pour les gouvernements sur le contrôle effectivement du nombre de migrants que chaque pays pourrait accueillir. On le disait, Emmanuel Macron doit prendre la parole dans les heures qui viennent, demain, après-demain. Qu'est-ce qu'il peut dire? On l'entendait, Alain Juppé dit qu'il faut qu'il soit compréhensible pour les Français.
Ah, je crois que le conseil d'Alain Juppé est extrêmement mauvais pour le président de la République, parce que c'est encore une fois cette idée que les Français qui y protestent n'ont tout simplement pas compris l'excellente parole présidentielle. Donc ce serait un problème de pédagogie, qu'il y aurait effectivement des gens d'en haut qui parleraient trop bien pour les gens d'en bas, et d'en bas qui ne seraient pas capables de comprendre le message. Non, apparemment, ce que réclament les gens, pour ceux qui attendent encore quelque chose de la parole présidentielle, c'est un changement de cap.
Parce que là, on parlait de ceux qui manifestaient hier à Paris, mais on voit qu'il y a un mouvement de sympathie qui reste quand même important dans l'opinion, malgré les violences.
C'est très étonnant. 66% des Français expriment soit du soutien, 40%, soit de la sympathie, 26%, c'est des chiffres de l'IFOP. Et cela en fin de semaine dernière, c'est-à-dire alors que l'objet initial, la taxe sur le carburant, avait été de facto retiré. C'est très étrange de voir ce soutien aussi massif, ce qui prouve qu'effectivement, le sujet qui était assez technique, assez précis au début, s'est largement politisé. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le premier effet positif à mon sens, et là je m'exprimerai à titre personnel, ça a permis de remettre les questions sociales au premier plan, et que les faits que le Français s'intéresse à savoir quelle est la condition réelle, notamment la condition salariale, et découvre qu'effectivement les choses ne vont pas si bien.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie, je rappelle, politologue spécialiste de l'opinion, président de Pollingvox, qu'on a entendu longuement et qu'on entendra de nouveau sur Europe 1 chez Wendy Bouchard dans le tour de la question, car effectivement vous suivez au plus près ces manifestations qui durent déjà depuis le 4e samedi consécutif. Absolument. Sur la mobilisation des Gilets jaunes. Merci beaucoup.
Merci à vous.